Le soleil se couchait, il faisait assez doux. On était en haut de la montagne, à côté de la croix, puis cette bouteille-là s'est bue en littéralement 4 secondes écart, avec un sac de chips. C'était vraiment délicieux. Et moi, quand je suis en vacances, j'aime bien fumer la cigarette. J'avais oublié mon tabac à rouler et on arrive à la table de pique-nique et il y a un paquet de Marlboro Gold qui nous attend caché sous la table à pique-nique. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est venu nous déposer ça en prévision de notre apéro, ça ne se peut pas. Et moi, des moments parfaits comme ça, ben ça fait que le vin finalement devient encore plus magistral.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Sommelière ou vigneronne? Vigneron ou sommelier? La question est posée, mais on s'en fout après tout. Parce que ces deux-là, Émilie Campeau et Vincent Lagnel, dont la rencontre s'est faite autour d'un verre de vin, ont avant tout le goût des bonnes choses et du travail bien fait. Après s'être illustrés dans la salle du restaurant Candide de Montréal, ils ont tous les deux pris le chemin des vignes. Elle en Allemagne avec son mari, et lui au Québec, leur terre natale. Et parce qu'ils ne font rien comme les autres, ils cultivent tous les deux des cépages hybrides et mettent une bonne dose d'humour et de légèreté dans leur domaine et leur vin. Ils ne font rien comme les autres, mais ils font tout avec le cœur, pour notre plus grand bonheur. Bonjour Émilie Campeau, bonjour Vincent Lagnel. Merci beaucoup d'être à Paris aujourd'hui. Pour une des rares fois dans ce podcast, on ne s'est pas déplacé. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Je commence.
Oui, vas-y Émilie, je t'en prie.
Bonjour. Bonjour la France. je m'appelle Émilie. J'ai plusieurs carrières. Je collectionne les carrières depuis quand même assez longtemps. J'ai été chef pendant très longtemps, puis ensuite j'ai pris le poste de sommellerie au restaurant Candide à Montréal en 2016. Et ensuite, c'est un peu compliqué, rester concentré. J'ai pris le poste en 2016 et en 2019, je suis revenue en Europe où j'ai un domaine avec mon mari. Et je fais encore la carte des vins à distance du Candide.
T'as un domaine en Allemagne, précisément, ouais. On va en parler un petit peu plus après.
Quoi. Au début, on était en Autriche et en 2021, on s'était installé officiellement en Allemagne.
Très bien. Vincent?
Oui, donc moi, je suis un ancien comptable qui était étudiant en études urbaines à la maîtrise. Et puis, le vin m'est tombé dessus carrément, ou je suis tombé dans le vin. Là, l'ordre reste encore à déterminer. Et c'est notamment à cause d'Émilie. C'était un moment de ma vie où j'achetais quand même beaucoup de vin par plaisir personnel et tout. Puis j'ai entendu parler de certaines dégustations qui semblaient pratiquement clandestines. Un dimanche après-midi par mois, quelques jeunes bobos se retrouvaient pour boire du vin nature avec une sommelière qui venait leur faire une espèce d'exposé. Et j'ai fait disparaître quelqu'un finalement, puis j'ai pris sa place dans le groupe. Donc c'est cette fois-là que j'ai rencontré Émilie, puis j'ai tellement aimé sa passion, sa façon de parler du vin, son espèce d'énergie à nous communiquer l'histoire des gens comme si c'était tous ses meilleurs amis. Et c'était, j'aime beaucoup le raconter, c'était sur les vins allemands. Donc, on dirait que la boucle s'est bouclée. Et ça a été, là, à ce moment-là, le chemin a commencé à se faire en moi d'avoir envie de m'enligner vers de faire du vin professionnellement, que ma carrière s'enligne vers le vin finalement. Et c'est la comptabilité qui a été mon bon outil pour ça, parce qu'il y a un poste qui s'est ouvert dans une agence d'importation de vin à Montréal où est-ce qu'ils cherchaient un directeur des finances. Puis j'ai levé la main. J'avais l'impression de faire une entrée dans le, pas du, dans, dans le milieu du vin. Mais c'était encore toujours des fichiers Excel. Donc, j'étais pas encore vraiment... j'avais pas les deux pieds dedans. Et un an après ça, il s'est ouvert un poste au restaurant Candide, alors qu'Émilie était déjà comme consultante à distance. J'ai soumis mon nom en disant, ben écoute, je connais pas encore grand-chose du vin, mais comme c'est toi qui as formé mon palais, peut-être qu'on pourrait faire une bonne équipe. Et ça s'est plutôt... pas mal bien passé jusqu'à maintenant. Oui, voilà. Donc, et là, à partir de juin-juillet, c'est moi qui vais reprendre le poste d'Émilie parce qu'Émilie sera rendue à se consacrer pleinement à sa nouvelle vie agricole.
Émilie, toi, comment t'es arrivée à la sommellerie et au vin?
J'ai travaillé en cuisine pendant plusieurs années. Je suis allée à l'école de cuisine. J'ai travaillé à Montréal. J'ai habité à Vancouver. J'ai habité à Paris plusieurs années. Ensuite, j'ai été de l'équipe d'ouverture de Racine New York en 2014. Donc, je baignais déjà quand même pas mal dans le vin à ce moment-là, surtout dans le vin nature. On était vraiment pas loin de Chamber Street Wines. Peut-être que vous connaissez, c'est une boutique de vin vraiment mythique
À New York. Ouais. Voilà. Et Racine, c'est l'ancien restaurant où travaillait Pascaline Lepelletier.
Oui, mais en fait, qui a été transformé en Chambers maintenant. Yeah. Donc, c'est une métamorphose du même local. Et donc, même quand j'habitais à Paris, déjà, j'habitais à côté d'une boutique qui s'appelait Le Vin en Tête. Je ne sais pas si ça existe encore. J'aurais peut-être dû m'enseigner. Mais c'était une petite boutique de vin nature qui a vraiment fait mon baptême dans ce milieu-là, où j'étais cliente. Même chose à New York, en fait, tu sais, baigné dans le vin nature et moins nature aussi, dans les restos, dans les boutiques de vin à New York. Et donc, rendu là à la fin de 2015, en toute honnêteté, j'étais un peu fatiguée de la cuisine, j'étais un peu fatiguée de ce rythme de vie-là qui était très, très dur. Et par un hasard absolument incroyable. J'ai lancé une bouteille à la mer en disant « Je me chercherais peut-être un poste en service, en salle. Peut-être. » Qui aurait un lien avec le monde du vin. Et quelqu'un m'a écrit, on avait un ami en commun qui allait ouvrir son restaurant, donc le restaurant Candide, qui cochait vraiment toutes les cases de ce que j'avais envie de faire dans ma vie à ce moment-là. Donc, vraiment un restaurant 100% local pour la cuisine, bien sûr. À ce moment-là, c'était pas possible de faire une carte des vins 100% locale de vin québécois. Qui avait pas de compromis, en fait, dans l'approvisionnement des produits, qui était assez petit, qui était vraiment... un restaurant qui était vraiment centré sur le bien-être de ses employés aussi. Donc, c'est vraiment là où j'étais rendue dans ma vie. Donc, j'ai eu des conversations avec John Winter Russell, donc le propriétaire du restaurant, qui éventuellement m'a engagé pour faire sa carte des vins. Ce qui était un pari extrêmement risqué d'engager une sous-chef pour faire une carte des vins. J'ose croire très humblement que ça s'est bien déroulé parce que ça fait 7 ans et demi que je suis encore là. donc je pense que ça s'est bien déroulé. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du vin. Et ensuite, quand j'ai fait 3 ans en service, 100% sur le plancher, comme on dit en bon québécois, dans notre resto. Et ensuite, dès le départ, en fait, j'étais très intéressée par la production de vin. Donc, très intéressée par l'aspect de tout ce qu'il y avait à faire avec la vinification et tout ça. Et donc, dès le départ au Candide, j'allais toujours faire les vendanges quelque part. J'étais toujours très impliquée, visiter les producteurs au Québec et tout aussi. Et donc, éventuellement, j'ai décidé de
sauter le pas.
De faire le plongeon. Et ça a donné que c'était au même moment où j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari. Donc, c'est un concours de circonstances quand même incroyable. Voilà.
Pourquoi avoir choisi l'Europe et pas être resté au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, par exemple?
La réponse à ça est très, très, très nuancée et très compliquée aussi. J'ai rencontré mon mari en Autriche en 2018 pendant les vendanges. quand on était chez quand lui travaillait chez Franz Wenninger et moi je suis allée comme comme stagiaire pour les vendanges. Et moi c'était un moment dans ma vie où j'étais prête à partir du restaurant à temps plein pour que où j'avais envie de me détacher un peu du service et d'aller plus vers la production. Ça a comme juste bien tombé. Lui, il avait ce poste-là chez Wenninger. Fait que j'ai dit, moi, je vais me déplacer. Parce que lui, s'il était venu au Québec, par exemple, il n'y avait pas d'opportunité d'emploi pour lui qui venait de graduer de l'université en Vitiuno. Il n'y avait pas... je ne sais pas s'il y en a un peu plus maintenant, mais à l'époque, il n'y avait aucun poste d'ouvert pour quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a un diplôme en Vitiuno. Ça n'existait pas. Je pense que maintenant, il y a peut-être quelques ouvertures, mais à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Donc, on a choisi de rester en Europe. Mais il y a aussi le fait que d'aller s'installer au Québec, ça prend beaucoup d'argent, qui est quelque chose qu'on n'avait pas. Voilà.
OK. C'est quand même des changements de vie assez importants là, que vous nous décrivez, notamment, vous travaillez dans un resto, dans une grande ville assez dynamique. La vie à la campagne, ou en tout cas dans un vignoble, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous aviez peur de ça au début? Ou est-ce que, au contraire, c'était une envie très forte?
C'était pas une envie très forte, mais c'est pas quelque chose dont j'avais peur. Moi, je suis née à la campagne. Vincent est né en ville. Moi, je suis née à la campagne, donc c'est quelque chose que je connaissais vraiment bien. J'en savais les limitations, j'en savais aussi le... certaines parties qui sont vraiment agréables. Donc, je pense que pour moi, c'est un changement à ce moment-là dans ma vie. Je venais de tourner la trentaine, en fait. Donc, à ce moment-là dans ma vie, j'étais rendue à justement quitter un mode de vie plus urbain, plus extraverti, plus... comment dire?
Dépensier.
Dépensier. Non, mais définitivement plus extrêmement stimulant. Moi, j'étais rendue à un endroit dans ma vie où j'avais besoin d'un peu plus de calme. J'avais besoin de prendre les choses un peu plus calmement. Donc, c'est arrivé exactement au bon moment pour ça.
Et toi, Vincent?
Ben, de toute façon, en fait, puisque la question est posée, j'ai expliqué mon entrée dans le monde du vin, surtout à travers la sommellerie, mais c'est vrai que j'ai pas parlé du volet viticulture et vinification. Donc, pour ma part, donc, moi, je sais que quand j'ai planté 400 premiers pieds de vigne chez les parents de mon associé Félix, on a planté 400 vignes parce qu'on avait accès à un petit bout de terre de rien. De fil en aiguille, on s'est regardé et on a dit hey, « on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler la terre, qu'on connaît pas du tout. Le rapport à la nature, quand on vient de la ville, on l'a presque pas. Et je me souviens qu'après avoir planté 400 pieds de vigne, ben, on passait notre temps sur les moteurs de recherche à se chercher une terre qu'on pourrait acheter. Donc, c'est un peu comme ça qu'est née cette envie-là de dire, ben mon Dieu, de réhabiter finalement l'environnement de façon complètement différente quand on vient de la ville. Moi, il y avait quelque chose de très sexy dans cette idée-là. Après ça aussi, j'ai commencé de façon très personnelle, j'ai commencé à me poser certaines questions. Je me suis dit, bon, j'aime beaucoup la sommellerie, mais on dirait que la sommellerie, ça passe quand même beaucoup forcément par le travail de plancher. Et c'est des horaires quand même, on finit tard, on se couche tard. C'est un milieu aussi où c'est tellement naturel d'aller boire un verre après le travail. Pour moi, c'est très exigeant comme mode de vie. Je me voyais pas faire ça toute une carrière. Et donc là, de commencer à me dire, ben peut-être qu'un beau projet de vie, ça serait celui de faire du vin. Donc pour moi, vraiment naturellement, puis aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que j'habite sur ma terre, ça a été la plus belle décision de ma vie de quitter la ville puis de m'enligner vers faire un projet de vie qui est celui de l'agriculture.
Alors, je voudrais qu'on parle plus précisément du Québec, là. De mon point de vue, j'ai l'impression que c'est une région qui, en termes de viticulture, de nouveaux projets, est assez dynamique, où il se passe beaucoup de choses. Mais je vais commencer par une question très basique. Pour beaucoup de Français, il me semble, le Québec, c'est associé à la neige et à un climat relativement difficile. Okay.
Est-ce que le climat, il est vraiment propice à la viticulture au Québec?
Ben, peut-être que déjà, il faudrait briser certaines images que le Québec peut projeter. On ne vit pas sous la neige 12 mois à l'année. Le Montréal souterrain est grosso modo une supercherie. Donc, on sort à l'extérieur. Quand le printemps se dévoile, notamment à Montréal, les gens virent fous. On aurait l'impression qu'ils ont mis de la cocaïne dans l'eau de ville de Montréal parce que tout le monde, au premier 3 degrés Celsius avec un peu de soleil au mois de mars, les gens sont en t-shirt à l'extérieur. C'est juste qu'il faut comprendre qu'après ça, pour l'agriculture, c'est que nous, on va vivre sur une saison beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courte et très, très, très intense. Donc, parce que là, moi, je reviens tout juste d'avoir fait des visites en Allemagne et des visites dans le Jura, de voir les gens tailler en janvier, février, faire des travaux de sol un peu, sinon de retravailler le palissage, de réparer certaines choses. Ça, c'est du temps en hiver que nous, on n'a pas au Québec. Donc, nous, au Québec, on n'a pas accès à la terre tant et aussi longtemps qu'il y a de la neige. Et là, on enregistre aujourd'hui, on est à peu près autour du 20 mars. Chez moi, il y a encore pas mal de neige. On risque de pouvoir commencer à les tailler probablement à partir de la deuxième d'avril. Et nous, on va débourrer, donc, autour du 10 mai, disons, en moyenne. Et donc, ça va nous faire... ça fait une saison de la taille qui est très, très, très intense. Après ça, on est catapulté dans le début de la saison, puis la vigne, elle est sur les stéroïdes pendant l'été chez nous. C'est-à-dire que la fonte des neiges amène énormément d'eau dans les sols. On a des sols extrêmement fertiles. Donc au Québec, un sol pauvre, c'est un sol qui a à peu près 2 à 3% de matière organique. Ça, en France, pour la vigne notamment, c'est considéré un sol extrêmement riche. On n'aurait pas mis de la vigne sur ces sols-là, on aurait fait de la culture qui a besoin de sols fertiles. Mais au Québec, tous ces rapports-là sont inversés, donc ça fait que finalement, la vigne elle pousse beaucoup de végétatifs. Elle est très vigoureuse, elle fournit d'excellents rendements. Il y en a beaucoup qui se sont dit à travers les années, ah, ben, il faudrait peut-être essayer de faire des rendements à l'européenne, donc de limiter finalement pour avoir des vins avec un peu plus de concentration. Ça fait des vignes qui sont en déséquilibre, qui ne sont pas heureuses. Il faut laisser la vigne au Québec s'épanouir, pousser, produire. Donc, c'est vraiment... Tout ça est complètement différent du modèle européen, mais c'est possible. Puis c'est surtout que pour avoir souvent échangé avec Émilie dans les 2 dernières saisons, je pense qu'en Europe, vous avez d'autres défis liés au changement climatique qui sont extrêmement compliqués. Au Québec aussi, on vit les changements climatiques, bien évidemment, mais nous, ça se présente sous différentes formes. Donc, finalement, chaque région a ses défis, puis nous, on a les nôtres.
C'est quoi les autres défis, à part le climat là, que tu viens de décrire, et puis la saison qui est très courte? C'est quoi les autres défis en termes de viticulture au Québec?
Donc, disons qu'on s'en tient un peu plus à la question des changements climatiques. Toutes les régions, je pense, font face à beaucoup l'imprévisibilité du climat, de la météo. C'est-à-dire que chez nous, pendant longtemps, en fait, pour ceux qui faisaient pousser de la vigne, il y avait le bonheur de pouvoir bénéficier du couvert de neige l'hiver qui venait protéger la vigne, protéger des grands froids pour éviter de perdre les bourgeons primaires. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, la troisième semaine de janvier, on a une semaine de pluie, on perd notre couvert de neige. La semaine après, il va faire moins 35, nos bourgeons primaires gèlent. Donc, on ne peut plus se fier autant qu'avant sur la neige. On a encore des grands froids, même si les hivers sont plus cléments. Donc, tu sais, par exemple, l'hiver 2022-2023 est reconnu comme étant passablement chaud et confortable. Cela dit, on a juste besoin d'une seule descente d'air froid de l'Arctique pour enregistrer un genre de moins 34 que les bourgeons primaires vont cramer. Donc, moi, comme producteur, là, je me rends compte que je ne peux plus me fier à la neige pour me protéger. Peut-être qu'il va falloir que... Moi, j'avais des cordons qui étaient à peu près 50 cm du sol. Peut-être qu'il va falloir que je passe en guyot avec mes baguettes piquées dans le sol à l'automne pour me tenir le plus près possible du sol. Et que ce qui nous reste de neige, finalement, réussisse à couvrir et protéger ça. Les gels de printemps sont monnaie courante chez nous, mais ils se déplacent. Quand je dis imprévisibles, c'est qu'on en a eu en 2021, en juin. Le gel de printemps est arrivé le 2 juin. C'est extrêmement tard. Et après ça, ben, les gels d'automne, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a. Donc, avec des grandes tempêtes, c'est vraiment ça. C'est que finalement, il n'y a pas une saison qui se ressemble. Et on a l'impression que le climat change plus vite qu'à la vitesse à laquelle on est capable de réagir et de s'adapter.
Ce que tu as décrit là sur la fertilité des sols, les rendements, la saison assez courte, d'un point de vue européen, et d'un point de vue des vignerons ou des vigneronnes qu'on a l'habitude de rencontrer dans le podcast, on pourrait se dire, ça ne ressemble pas à des conditions pour faire des grands vins. Est-ce que on peut faire des grands vins au Québec dans ces conditions-là ? Émilie, peut-être ?
Ça dépend, qu'est-ce que tu définis par un grand vin ?
Alors, ce serait un vin, je dirais, où il y a un peu de concentration, où il y a qui va se garder, qui va traverser un peu le temps, qui va se bonifier avec le temps, déjà dans un...
Bah, dans première, ce cas-là, la réponse est oui.
Ouais? Okay.
C'est sûr que c'est quand même une industrie qui est assez jeune, qui est ultra dynamique, mais qui reste quand même assez jeune. On est surtout sur des projets de première génération. On est surtout sur des vignes qui ont, tu sais, entre 4 et... une quinzaine d'années à peu près, sauf sur certains projets qui ont des vignes un peu plus vieilles. On est dans l'exploration de la vinification, dans l'exploration de l'utilisation de soufre ou pas, un peu de toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que la diversité du vin fait que la définition d'un grand vin est certainement assez large. On fait certainement beaucoup de vins d'émotion. Des vins qui mémorables dont on va se rappeler, mais je pense que le vin, tout le vin dans la vie a besoin d'un contexte, donc faut remettre les vins québécois dans leur contexte de vin québécois aussi. C'est sûr que si on les compare avec certains vins européens, c'est pas nécessairement flatteur ni pour un ni pour l'autre, pour vrai, parce qu'ils ont chacun leur contexte, donc voilà, ouais.
Si je peux rajouter sur cette question-là, quand même, faut aussi réussir à comparer certaines choses, dans le sens que, justement, on revient du Jura, dans les Blancs, on fait souvent des élevages de 2-3 ans en vieux fût, dans des magnifiques caves. Le Québec a énormément d'acidité dans ses vins. On gagnerait à pouvoir faire ces élevages-là un peu plus prolongés pour accompagner l'acidité, pour venir l'envelopper de texture, amener un poil d'oxydation, je ne sais pas. Mais bon, on est aussi une industrie extrêmement émergente et naissante. Je regarde les projets de mes collègues et le nôtre. Généralement, il faut avoir vidé la cuverie en termes de vin avant la vendange suivante ou en tout cas pas très loin de ça, dans l'idée de faire de l'espace pour accueillir le millésime suivant. Donc, bien évidemment, faire des grands vins, si on compare avec des grands terroirs où la tradition viticole est installée depuis longtemps, ben oui, OK, il y a plein de domaines qui ont le bonheur du temps, qui font vieillir les vins très, très longtemps, qui les commercialisent vraiment quand ils sont à point. Donc, on ne peut pas comparer forcément ces deux choses-là. Mais, en tout cas, sur la fameuse question des rendements, et donc, est-ce qu'on fait un produit plus dilué parce qu'il y a plus de rendements? Comme je le dis, en fait, c'est que pour moi, c'est une fausse adéquation, parce que la vigne ne peut pas faire de petits rendements au Québec, ou sinon, si elle l'en fait, c'est que c'est le signe d'une vigne qui est pas en bonne santé. Et une vigne qui n'est pas en bonne santé ne donne pas des bons vins, en général. C'est surtout ça, la question.
Ça, je pense qu'on est d'accord, oui.
Exactement.
Comment ça se fait que l'industrie, elle n'est pas plus vieille que ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui se sont lancés il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, je veux dire, au moins la génération précédente?
C'est une question à laquelle on peut les deux répondre. Émilie avait fait un excellent papier dans le magazine Caribou sur la naissance de l'industrie. Est-ce que tu veux y répondre?
Je peux commencer. Ça a pris du temps avant qu'on comprenne qu'on pouvait planter des Finifera, qu'on pouvait les protéger pour les grands froids de l'hiver, qu'on pourrait faire des vins avec du Vitis Vinifera. Cela dit, ça a pris quand même aussi beaucoup de temps avant qu'on comprenne que on pouvait faire d'excellents vins avec des cépages hybrides. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de fin de semaine, de médecins qui ont décidé de planter quelques centaines de vignes dans les années 70, dans les années 60, 80. Donc, un genre de première génération, mais toutes les vins qui sont sortis de ça, sauf exception, puis encore là, je suis pas sûre qu'il y a des exceptions, toutes les vins étaient absolument dégueulasses. Donc... donc, ça a donné quand même pendant très longtemps extrêmement mauvaise réputation à ce qu'on pouvait accomplir au Québec. Et éventuellement, donc, une nouvelle génération, souvent des gens qui sont soit venus du monde de la sommellerie, qui sont venus du monde du vin, qui avaient une connaissance en vin sans nécessairement avoir des connaissances très particulières en viticulture, et qui s'est installé et qui a prouvé que... en allant un peu dans l'expérimentation, en se posant les bonnes questions, c'était possible de faire d'excellents vins avec des hybrides, et c'était aussi possible de faire pousser du vinifera, donc d'aller élargir le potentiel qualitatif des vins québécois.
Pour ma part, moi, ce que j'ai vraiment observé, c'est que dans un premier temps, sur l'industrie, il a fallu que les gens se cassent les dents sur la viticulture. Donc, un des premiers grands projets, souvent, on va dire, c'est celui de M. de Courcergue avec l'Orpailleur, qui a planté les premières vignes en 1979, qui étaient, à ma connaissance, donc des hybrides venant du Minnesota, qui avaient en eux la rusticité pour traverser nos hivers. Je pense que le premier volet, ça a été de planter ces vignes-là et de voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et les défis étaient surtout là. Hein. Il n'y avait pas de fournisseur à peu près pour trouver du matériel viticole. On n'avait pas les connaissances. On ouvrait des livres théoriques sur le vin en Europe. Il n'y a rien qui s'appliquait au Québec. Donc, ce premier travail-là des défricheurs, ça a été un travail surtout agricole. Après ça, sur la qualité des vins aussi, vinifier des hybrides, comme le disait Émilie, ben ça prend du temps peut-être à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de ces hybrides-là. Et ça prend aussi peut-être un peu de la culture du vin puis un recul. Alors qu'il y a bien des gens qui ont planté de la vigne au Québec qui étaient surtout agriculteurs ou aussi l'exemple, le fameux exemple, médecins qui ont eu un voyage dont existant en Toscane en 1982 puis qui ont eu envie de vivre ça comme projet de retraite après ça au Québec. Bon, cela dit, donc, dans un deuxième élan, c'est de comprendre quel genre de vinification on peut faire, améliorer aussi l'agriculture. Et là, soudainement, on parle d'une industrie un peu plus sérieuse. Donc, on quitte un peu de faire du vin dans son garage avec des équipements un peu bancals. On réussit à établir quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, on se retrouve avec des fournisseurs qui ont de l'expertise. On commence à dompter le terroir, à mieux le comprendre. Et là, soudainement, les gens commencent à développer la confiance aussi. Ça, c'est important comme industrie émergente. Là, soudainement, les gens comprennent qu'ils peuvent faire du vin au Québec, que ça va se vendre, que le consommateur connaît les vins et peut les aimer. Et là, soudainement, ça crée un effet. Où est-ce que moi, finalement, quand j'ai commencé mon projet puis quand j'ai racheté un vignoble en 2021 avec mes associés, le gros du travail a déjà été fait par d'autres. Nous, c'est facile pour nous, finalement, à la vigne. On sait quelles erreurs ne pas faire. Au niveau des vinifications, j'ai eu la chance de goûter plein de vins d'hybrides vinifiés par d'autres avec des bonnes expériences, des moins bonnes. Donc, de commencer à faire du vin au Québec dans les années présentement, là, les années qu'on vit présentement, on est vraiment à la belle époque pour commencer à faire du vin au Québec.
Je pense que c'est peut-être un bon moment pour parler de la différence entre les hybrides européens puis les hybrides et ouais. Les hybrides qui sont sortis de l'Université du Minnesota. Je ne suis pas une spécialiste, mais...
Est-ce que tu peux commencer par expliquer déjà ce que c'est un cépage hybride?
Je pense que Vincent est plus... Je vois c'est quoi, mais je pense qu'il est plus éloquent là-dessus que moi.
Donc... Un cépage hybride, par définition, à la base, c'est qu'on va croiser deux familles de vignes différentes. Des familles de vignes, il y en a plusieurs. Il y a Vitis vinifera, Vinis labrusca, Vinis riparia. Il y en a d'autres que je ne connais pas par cœur. Au Québec, souvent, les hybrides sont nés d'un croisement entre Vitis vinifera et Vitis riparia. Donc, les riparia, chez nous, vont pousser dans la forêt, souvent, vont grimper très, très haut dans les arbres. Ce sont des vignes qui expliquent aussi la vigueur québécoise, là, dans le sens que ce sont des vignes qui, à l'état sauvage, ont l'habitude de devoir aller chercher la lumière dans des conditions un peu précaires. Donc, ont l'habitude de pousser. Et donc, on va croiser ça avec Vitis vinifera. Cela dit, l'art d'hybrider est un art très complexe parce que ce n'est pas au premier croisement tout simple entre une vigne de la forêt et, par exemple, un pinot noir en faisant un croisement de fleurs. Donc ça, en plus, ça demande une dextérité assez impressionnante. On croise les fleurs au moment de la floraison, puis là, on réussit à faire le croisement. Généralement, ce premier hybride-là créé n'est pas bon. Donc là, c'est pour ça que quand on regarde les codes génétiques d'un hybride aujourd'hui commercialisé, souvent, il y a un arbre généalogique qui suit derrière avec des vignes à numéros. Donc, par exemple, le MN1092 qui a été croisé avec le MN1048, MN pour Minnesota. Et donc là, on peut retracer un peu l'art de l'hybridation, mais c'est un art extrêmement complexe. Donc, il y a... Au Québec, surtout, on va retrouver ces hybrides-là du Minnesota. Il y en a eu aussi, si je ne me trompe pas, à l'Université du Vermont. Il y a des certains noms d'hybrideurs qui reviennent souvent, comme Elmer Swenson, comme Tom Plotcher. On a aussi au Québec Mario Clich, qui a... Puis là, souvent, ces gens-là, en plus, c'est toujours un peu drôle, ils donnent leur nom au cépage. Donc, pour le Clich, par exemple, il y a Vandal Clich, il y a Musca Clich. Pour Swenson, il y a Louis Swenson, Swenson White, Musca Swenson. Et donc, c'est ça, cet art-là. Les hybrides aussi, puis Émilie pourra peut-être y revenir, soit en parlant plus précisément de son projet ou rebondir sur la chose, mais les hybrides, on en a également en Europe. Il s'en est créé pour notamment répondre à la crise du phylloxéra. Quand on ne savait pas c'était quoi la solution pour faire face au phylloxéra, il y a des gens qui se sont lancés sur la piste de l'hybridation. Il y a aussi des hybrides qui sont nés un peu plus au début du 20e siècle. Comme je sais que chez moi, j'ai du Lucy Kuhlmann qui a été hybridé, en fait, en Alsace. Autour des années 1920, je ne sais pas exactement ce qui a amené un chercheur de l'Alsace en 1920 à hybrider, parce que la question du phylloxéra était déjà élucidée. Mais bon, il y a eu ça, puis après ça, un courant un peu plus moderne, les PVs, qui est un diminutif, j'essaierai pas de prononcer le long mot allemand, mais qui veut grosso modo dire résistant aux maladies.
PV, ça s'écrit PIWI, et c'est effectivement un acronyme pour des cépages résistants aux maladies. Ouais.
Exactement. Donc là, ça devient, surtout dans un contexte de réchauffement climatique et de pas savoir exactement comment la nature évolue ou qu'elle évolue plus vite que nous, avoir des vignes extrêmement résistantes, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant des PV, c'est que ce sont des croisements où est-ce que le code génétique, on va retrouver généralement en moyenne autour de 90% de vinifera et 10% de vignes sauvages. Donc, au niveau de la vinification, au niveau des marqueurs aromatiques, olfactifs, de la structure des vins, on est un peu plus près des vinifera. Donc, pour le consommateur moyen aussi, boire un vin de PV, je pense qu'on peut bluffer beaucoup de gens. Alors que c'est vrai que sur des hybrides nord-américains qui ont surtout été croisés pour faire face au froid, où est-ce que le code génétique sauvage est un peu plus présent, ben là, on a des marqueurs des fois un peu plus végétales ou on a des marqueurs un peu plus fumés. Ou... Il y a certaines notes, en toute franchise, sur certains hybrides qui sont des défis en vinification. Par contre, avec le temps aussi, on finit par planter de plus en plus des hybrides qu'on sait qui fonctionnent bien. Si je pense au Québec, au Saint-Pépin, c'est un blanc neutre. On peut faire beaucoup de choses avec le Saint-Pépin. Et là, il y en a de plus en plus qui le plantent au Québec. Versus, peut-être un maréchal Foch qui avait ce côté-là un peu végétal, un peu fumé. Il y en a beaucoup qui ont essayé des choses, puis il y a beaucoup aussi qui ont décidé de l'arracher finalement dans la vigne.
Émilie, c'est indispensable de travailler avec des cépages hybrides au Québec ou est-ce qu'on pourrait aussi travailler avec du Gamay, du Pinot Noir, du Savagnin, du Chardonnay?
Je pense pas que ce soit indispensable. Par contre, c'est très intelligent de planter et du vinifera et des hybrides sur ton domaine, bien sûr pour une raison tout à fait sérieuse et économique. S'il y a un problème sur les vinifera, il y aura toujours souvent les hybrides qui vont être un peu plus résistants et qui vont assurer un certain revenu. Donc, je pense que c'est toujours une très bonne façon de travailler. Je pense que la plupart des gens qu'on aime, qu'on représente au Québec sur la carte des vins du resto, ce sont des gens qui travaillent les deux familles de cépages. Donc, planter que des hybrides, c'est aussi possible et en faire d'excellents vins. Mais je pense que le modèle économique et le modèle de viticulture qui se développe de plus en plus, c'est de planter un mélange des deux.
C'est dans cet esprit-là que toi, tu as travaillé ton domaine? Alors déjà, je voudrais faire une petite aparté sur ton domaine. Je voudrais que t'expliques le nom du domaine que j'adore, qui me fait beaucoup rire.
C'est exactement pour ça qu'on l'a appelé comme ça. On s'est dit, le 10% des gens qui vont trouver ça drôle vont trouver ça vraiment drôle.
Je suis d'accord.
Oui, donc mon domaine, notre domaine avec mon mari en Allemagne s'appelle Weingut. Ça s'appelle G-O-U-T-T-E. Donc il y a un mot en allemand, un mot en français pour représenter nos deux origines linguistiques. Et aussi, donc, le mot « Weingut » en Allemagne, ça veut dire « domaine ».
En un seul mot.
Ouais, voilà. En un seul mot.
W-E-I-N-G-U-T.
Ça veut dire « domaine ». Donc, si on présente nos vins en Allemagne, tout le monde nous demande « mais Weingut what? » Parce qu'ils ne comprennent pas du tout. Donc, ça nous faisait bien marrer quand on chercher le nom de notre domaine, puis on a décidé d'aller avec ça, puis de répondre à la question « Weingut was » pour le reste de l'éternité.
Alors, le domaine là, que vous avez créé, donc Weingut, est-ce que tu peux nous dire comment ça démarre? Est-ce que vous avez planté? Est-ce que vous avez repris des vignes? Et comment est-ce que vous êtes tombé là-dessus, quoi?
Ouais, voilà, donc on n'a pas créé ce domaine-là. On était en Autriche. On a commencé Weingut en Autriche comme une négoce. Donc, on a acheté des raisins de la personne chez qui on travaillait en Autriche. Et on a fait une petite négoce d'à peu près 5000 bouteilles en 2019. On n'a pas fait de vin en 2020. Puis en 2021, on voulait vraiment aller s'installer probablement en Allemagne. En fait, notre critère, c'était on va s'installer dans un pays où un de nous deux parle la langue. Donc on parle allemand, français et anglais. Donc, nos possibilités étaient quand même assez limitées en Europe. Et moi, j'habitais en France plusieurs années et donc on ne voulait pas nécessairement revenir vers la France. Et donc, on s'est mis à chercher en Allemagne. Et on a mis une annonce sur un site qui ressemble peut-être à Le Bon Coin, mais surtout pour les vignerons. Pour le matériel viticole, tu peux mettre une annonce pour chercher du personnel, chercher du matériel, tout ça, et acheter aussi. Et on a mis donc une petite annonce qu'on cherchait des vignes, un endroit pour faire pousser des légumes, parce qu'on a une entreprise de maraîchage, et une maison. Et donc, les gens qui nous ont contactés, c'est un couple qui n'avait pas de succession, qui ont un domaine en Franconie. Donc la Franconie, c'est une heure, ça commence à peu près une heure à l'est de Francfort. Donc on est à peu près au centre-sud de l'Allemagne. Et eux, ils avaient donc 3,5 hectares en bio depuis 30 ans, ce qui, dans la région de la Franconie, est absolument pas fréquent.
C'était une pépite.
Et donc, c'était le deuxième confinement du COVID quand ça s'est passé. Donc, on n'a jamais visité le domaine. On a juste mis toutes nos affaires dans une voiture, puis on est venu vivre en Allemagne. Donc, c'était comme une blind date d'agriculture qui s'est bien déroulée, finalement. Au final, on est vraiment contents. Donc, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était pas à l'époque nos vignes à nous. Ces vignes-là ont été plantées par ce couple-là, et d'autres quelques parcelles aussi en location qui font partie du domaine depuis plusieurs années, des longs contrats de location. Et éventuellement, nous, on a comme reformé une compagnie avec eux pour partager le domaine. Donc, pour l'instant, on partage encore la vendange, puis éventuellement, on va reprendre l'entièreté de la vendange des 3,5 hectares.
Quand tu dis que c'est eux qui avaient planté les vignes, y compris les cépages hybrides,
ouais,
justement.
Surtout les cépages hybrides, en fait. Ouais.
Pourquoi ils avaient fait ce choix? Est-ce que tu sais?
Oui, en fait, le domaine, la région de la Franconie, il y avait beaucoup, beaucoup de domaines en polyculture, comme plein d'autres régions en France aussi. Dans le Jura, on a eu souvent ces histoires-là.
Oui, dans toutes les régions en France, il y a quand même une histoire de polyculture qui s'est transformée ensuite en monoculture parce que la vigne et le vin rapportaient davantage. Oui,
puis ça existe quand même beaucoup en Allemagne rurale aussi. Pas dans toutes les régions viticoles, mais dans la région où on est Oui. Donc, le couple avec qui on est partenaire maintenant avait des vaches. Et on décidait que c'était plus un mode de vie qui... Tu sais, quand t'as des animaux, particulièrement des vaches, t'es enchaîné à la maison.
Ouais, c'est 365 jours par an, quoi.
C'est jamais possible de prendre un moment pour aller en vacances ou pour même juste pour se reposer. Donc, ils ont décidé de vendre les vaches, de construire une auberge. Donc, ils ont construit une auberge avec 5 chambres et ils ont décidé d'arrêter de vendre les raisins à la coop et de commencer à vinifier leur propre cuvée à ce moment-là. Donc, ça, c'est la façon dont ça s'est passé. Ils avaient un petit peu de vigne, puis éventuellement, donc, notre partenaire a décidé d'ajouter quelques parcelles, donc, il a soit pris des contrats de location ou il a planté la vigne. Donc, il a planté un tiers de notre 3,5 hectares, c'est des hybrides. Et il a fait ça parce qu'il faisait tout le travail viticole, tout le travail en verre, tout seul. Ou à peu près tout seul. Donc, pour 3,5 hectares, de planter des hybrides qui sont résistants aux maladies fongiques permettait d'alléger la charge de travail et donc de réussir à faire ce travail-là pratiquement tout seul. Donc, les hybrides que nous, on a plantés, certaines parcelles n'ont pas été arrosées depuis... n'ont pas été pulvérisées depuis 20 ans.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez goûté un vin fait avec un cépage hybride, votre premier contact? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit?
La première fois que j'ai goûté un vin d'hybride, je crois que c'était ces petits imprévus du domaine du Nival, donc qui est un pétillant naturel fait de Vidal. Vidal qui est un hybride à la base français. Donc Mathieu doit le couvrir l'hiver, mais c'est une vigne extrêmement adaptée à notre terroir québécois. Puis je me souviens, j'avais goûté sur place. Et de toute façon, quand tu goûtes le vin de quelqu'un qui est devant toi et que tu le bois au domaine pour la première fois, c'est quand même toujours une belle introduction. Tu sais, il y a comme toujours quelque chose d'un peu enchanteur. J'avais vraiment aimé. Il y avait un côté très tropical au nez qu'on retrouve du Vidal. Et moi, je trouve que les pétillants naturels, les expressions qui me plaisent le plus sont celles qui sont aromatiques. Celles qui ont un beau gros fruit franc au nez et non pas ceux qui essaient de jouer un petit peu plus dans la ligue des méthodes traditionnelle au niveau de la finesse puis de la pureté aromatique. Donc, moi, j'avais beaucoup de plaisir avec cette cuvée-là. Et sur cette bulle-là aussi, pas beaucoup d'alcool, avec une bonne acidité franche, on pouvait pas demander mieux d'un pétillant naturel que ça. Ça a été vraiment mon premier contact avec les hybrides.
Ouais, le Vidal, c'est un cépage qui est quand même assez répandu au Canada, de manière générale. Il y a quand même pas mal de vin de glace, qui est un peu le vin emblématique du Canada, qui est fait à partir de Vidal. Il y en a pas mal dans l'Ontario et dans ces régions-là. Quoi.
Mais c'est intéressant parce que justement, on l'utilisait pour faire du vin de glace parce que son acidité était haute, son alcool était basse. Donc, si vous en faisiez une version avec du sucre, ben, l'équilibre sucre-acide était quand même très intéressant, mais justement, de l'imaginer en version sec. Donc là, soudainement, on a l'acidité, mais on a un bas taux d'alcool, donc ça fonctionne aussi très, 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 très bien.
Toi, Émilie, tu te souviens de ton premier contact avec un cépage hybride? Enfin, avec un vin issu d'un cépage hybride?
Je pense que pour moi aussi, pour un vin 100%, fait à 100% d'hybride, je pense que c'était aussi ces petits imprévus. Parce qu'avant, il y avait la cuvée quand même emblématique du domaine Les Pervenches, qui est faite de Céval et de Chardonnay, qui est quand même un vin qu'on adore au Québec, qui est vraiment la cuvée, une des cuvées phares du domaine Les Pervenches. Mais il y avait quand même du Chardot dedans. Mais ouais, 100% hybride, mais... Je pense que j'ai probablement goûté des choses qui ont été effacées de ma mémoire avant de goûter ces petits imprévus. Je pense que j'ai certainement goûté des choses qui étaient justement issues de cette première génération-là, de gens qui ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient avec les hybrides. Mais oui, définitivement, ces petits imprévus. En fait, Mathieu, du domaine du Nival, avait juré qu'il ne ferait pas de bulles. Puis en 2016, suite à une saison un peu difficile, il a décidé d'utiliser son Vidal pour faire des bulles. Donc, il a commercialisé pour la première fois en 2017. Et ça, au Candide, on avait pris je ne sais plus combien de caisses, mais je pense qu'on a vendu au moins 12 caisses au vert l'été, super frais sur la terrasse. C'était vraiment cool. Puis c'est comme un des premiers vraiment. Ça donne que c'était des bulles, là, mais c'est vraiment un des premiers vins qui a mis l'eau à la bouche de tout le monde. On peut faire des vins sérieux aussi, mais on peut aussi faire juste d'excellents pétanades faciles à boire qui sont parfaits pour toutes sortes de célébrations.
J'en profite pour rebondir sur ce vin, puis surtout que tu viens de dire qu'on commençait à démontrer qu'on pouvait faire des vins sérieux. Il y a deux hivers, quand tu es venu chez moi avec Christophe notamment et Laurence, on avait bu Matière à discussion, qui est du domaine du Nival, qui est 100% Vidal, encore une fois, mais qui est la version tranquille, élevée en barrique de ce même vin, d'une certaine façon. On a bu côte à côte 2017 et 2018. Donc ça, on l'a bu en 2022. Et c'était sincèrement des très, très bons vins. Ça, c'était du vin qui avait eu du temps en bouteille, qui avait, sur 17, on commençait à avoir certains marqueurs d'oxydation. 2018 était un millésime un peu plus équilibré, si ma mémoire est bonne. Puis côte à côte, on avait énormément de plaisir. Puis pour nous, encore aujourd'hui, quand on a ces expériences-là avec des vins d'hybrides qui ont un peu d'âge, ça ne fait que renforcer l'idée qu'on peut faire d'excellents vins avec ces vignes-là.
Est-ce que c'est des vins qui demandent une certaine forme d'apprentissage gustatif? Est-ce que quand on commence à goûter des vins issus de cépages hybrides, est-ce qu'on est totalement ailleurs et donc il faut un peu de temps ou en tout cas une certaine ouverture d'esprit pour les appréhender?
Oui et non. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter pour répondre à cette question-là, dans le sens que... Encore une fois, un genre de matière à discussion du domaine du Nival. Moi, j'amène ça à table au restaurant. Puis pour des gens qui c'est un des premiers contacts avec les vins du Québec puis qui veulent une bonne bouteille de blanc, tout le monde est toujours charmé par ce vin-là. Mais c'est vrai qu'il y a certains cépages avec certaines vinifications qui peuvent nous sortir de notre zone de confort. Suffit de faire un peu de macération sur, par exemple, un Muscat Acéola comme le fait le Clos Survivant dans la région de Québec. Ben pour vrai, là, on macération sur quelque chose d'un peu muscaté, qui est hybride, qui a peu d'alcool, on tombe sur des parfums extrêmement particuliers. Heureusement, il y a un marché pour ça, mais j'amènerais pas ça à quelqu'un qui a un premier contact avec le vin du Québec, parce que là, on sort trop de notre zone de confort. Mais en même temps, c'est ce qui est magnifique au Québec, c'est que comme on n'a pas la culture de boire nos propres vins, on a la culture de boire des vins d'ailleurs, et surtout sur les gens de notre génération, Émilie et moi, début trentaine, fin trentaine, on a l'habitude de boire des vins de partout et on veut boire des trucs nouveaux. Donc nous, de se faire présenter, « Hey, as-tu déjà goûté un vin de... » Lucie Kuhlmann à 100%, non, mais j'aimerais en goûter. T'sais. Donc là, soudainement, ça amène ce facteur-là de découverte, d'enthousiasme qui fait qu'au Québec, on peut faire beaucoup de choses dans nos chais. Puis il y aura toujours des consommateurs qui seront qui auront envie de les découvrir.
Je pense que de toute façon, d'arriver à table dans un restaurant avec une ouverture d'esprit sur le vin, je pense que c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Mais c'est sûr que moi, au début, en 2016, quand on a commencé à servir des vins québécois au resto, donc dans la première année du Candide, il y avait beaucoup d'éducation à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Fallait prendre les gens par la main, fallait leur expliquer, fallait leur parler du projet, leur parler de la passion des gens, leur parler de pourquoi ça goûte ça? Pourquoi ça goûte différent? Même si c'était des vins viniférants, hein, vraiment juste, tu sais, les niveaux d'acidité, les niveaux les équilibres un peu différents des vins européens, l'utilisation du bois qui se perçoit pas de la même façon, tu sais, tout ça, fallait vraiment passer beaucoup de temps à table puis vraiment bien expliquer ces choses-là.
Parce que ce que tu décris, en fait, c'est que le terroir, il est différent, il a une spécificité. On en a parlé avec le climat, avec les saisons qui sont courtes, donc tout ça, même avec des vinifera, ça fait que tu vas avoir des vins différents. Le Gamay que tu produis au Québec, il n'aura jamais l'allure du Gamay que tu produis dans le Beaujolais ou dans la vallée de la Loire.
Bien sûr, et comme on est tous comme tout le monde, hein, on met des petits tiroirs avec des informations dans notre tête, puis c'est sûr que quand on boit des vins québécois, il faut rajouter des informations dans ces tiroirs-là que certains vins peuvent avoir complètement une autre perception, être vu sous un tout autre jour. Donc, c'est quand même intéressant de... c'est intéressant en sommellerie de, comme, à Montréal ou dans d'autres villes du Québec, partout au Québec, en fait, de vraiment, comme, démolir ces principes-là, table par table, de faire, comme, ayez pas peur, on va vous prendre par la main, on va vous apporter quelque chose de bon, on va vous expliquer ce qu'il faut expliquer. C'est sûr que ça a besoin d'une mise en contexte. T'sais, je pense que tout le monde a besoin d'être... d'être juste pris un peu par la main. Puis
accompagné.
Accompagné, voilà.
Juste pour rajouter là-dessus, mais un bel exemple pour moi, c'est quand j'ai à présenter un Pinot Noir du Québec à une table. Prenons par pur exemple une table de Français, par exemple, qui viendrait manger au restaurant Candide. Au hasard. Et on a bien peur de choisir un vin du Québec. Et là, je leur dis, ben écoutez, moi, je vais y aller avec une valeur sûre. Allons-y avec un Pinot Noir. Il faut toujours que je fasse une petite mise en contexte en disant, aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, on boit des Pinot Noirs de Bourgogne à des maturités qu'on n'avait jamais rencontrées.
14 degrés, 14,5.
Exactement. Mais donc, c'est pas sur ces degrés-là d'alcool que la Bourgogne a fait sa réputation. La Bourgogne a fait sa réputation à une époque où les taux d'alcool étaient beaucoup plus bas. Et donc, moi, je dis, on n'a pas du tout à avoir honte au Québec de faire des Pinot Noirs à 10,5, 11% d'alcool. Bon. Malheureusement, souvent, les vignes sont un peu plus jeunes, donc on peut pas... Puis les élevages ne seront pas aussi longs, il n'y a pas un temps en bouteille aussi long, mais il y a une fraîcheur dans les Pinots Noirs du Québec qui est extraordinaire. Et je pense que pour les amoureux de ce cépage-là, finalement, de redécouvrir ce cépage-là à travers des versions du Québec, bien là, finalement, ça plaît beaucoup. Et moi, au restaurant... j'aime beaucoup charmer les gens avec ce genre de moment-là, de faire comme « Ah, mon Dieu, c'est vrai que c'est bon ». Et ça, moi, dans ce temps-là, je peux réaccrocher mon tablier, puis ma soirée est faite, je suis content.
Ouais, les consommateurs, globalement, ils réagissent bien quand vous leur proposez des vins québécois, hybrides ou pas?
Je te dirais que dans les... Tu sais, comme je parlais sur la question précédente, qu'en 2016, quand on a commencé, on avait beaucoup d'éducation à faire. Mais c'est vraiment en 2016 que le boom a commencé à s'effectuer dans les vins québécois. Donc 2016, 2017, 2018, les gens ont commencé à vraiment s'intéresser. Donc les Québécois ont commencé à s'intéresser aux vins québécois. Et là, à partir de là, les choses ont toujours été un peu plus faciles parce que premièrement, il y a eu beaucoup plus de monde, de viticulteurs qui se sont installés, de gens qui ont parti des projets, il y a eu plus de vins qui étaient disponibles aussi. Donc les gens ont commencé à en consommer plus, à en acheter dans des boutiques aussi, à en acheter pour la maison, à acheter des caisses directement des producteurs. Donc, éventuellement, ça a commencé à être un peu plus accessible et moins difficile de vendre du vin québécois. Puis maintenant, la demande, c'est... Il y a vraiment plus de demande qu'il y a de production. Donc, c'est pour ça que je pense que la majorité des producteurs n'exportent pas non plus. C'est qu'on peut vraiment comme... Vous pourriez tous vendre le triple de votre production sans aucun problème au Québec.
Alors, vous avez chacun votre domaine, on en a parlé. Weingut en Franconie, très précieux sang au Québec. Vous avez évoqué succinctement la taille de votre domaine. Vous avez quand même des surfaces agricoles relativement modestes. Est-ce que vous arrivez à trouver un modèle économique pour vos domaines?
C'est sûr que c'est complexe de trouver un équilibre financier à petite échelle. Dans le cas de notre projet de Très Précieux Sang, avec Félix et Laurence, on s'est jamais vu vraiment de la fibre entrepreneuriale à avoir des employés, à opérer une grosse entreprise. Et donc, on a essayé d'évaluer le nombre de vignes, de plants de vignes qu'on avait besoin de planter pour garder ça à échelle très humaine. Cela dit, ça pose des défis. Ça fait que sur un mauvais millésime, ben là, ça se ressent vraiment plus sur l'état de nos finances. Alors que si tu es un peu plus établi, un peu plus gros, généralement, tu es capable de peut-être un petit peu plus d'emmagasiner de la trésorerie, de te faire des réserves. Quand tu es plus gros, je pense que tu as un petit peu plus de flexibilité sur ces choses-là. Alors que si tu vis sur, par exemple, 2 hectares au Québec, ben, l'année que tu as le tiers de ta production, tu as le tiers de tes revenus, et là, soudainement, payer l'hypothèque, ça devient vraiment un enjeu. Puis moi, j'ai aucun problème à faire du négoce. J'adorerais en faire, mais au Québec, malheureusement, du raisin bio, ça n'existe pas.
Il y en a pas beaucoup, ouais.
Non, on peut pas passer un coup de fil chez des amis à Gaillac pour avoir du raisin soudainement pour un été. Un petit clin d'œil à Nicolas Grosbois, parce qu'on aime beaucoup ses vins au Québec. Mais moi, quand je vois des trucs comme ça, je suis comme, c'est super, attends, là, t'as du gel 2-3 années de suite, au lieu de crever de faim, puis d'avoir la banque qui t'appelle à chaque semaine, ben, tu trouves du raisin bio, tu fais du vin, puis voilà, ton entreprise est pas dans le pétrin. Moi, en tout cas, dans notre philosophie, c'est beaucoup plus ça, mais on n'a pas cette chance-là. C'est sûr que ça fait aussi que moi, par exemple, depuis qu'on est propriétaire en 2021, j'ai conservé mon emploi au Candide. Ça crée des genres de distorsions. Est-ce que je vais faire une grosse semaine à la campagne, à travailler à la chaleur, puis avoir 2 ou 3 services de suite au restaurant où on finit à minuit, 1 heure du matin? Des horaires qui sont peu compatibles au niveau de l'énergie. Mais en même temps, on finit toujours par se débrouiller. Moi, je suis quelqu'un de débrouillard, en tout cas. Donc, on finit toujours par trouver des solutions.
De notre côté, c'est un modèle extrêmement différent. Là. C'est un modèle vraiment plus européen, la ferme chez nous. Donc, on n'a pas eu, mon mari et moi, on n'a pas eu un investissement initial qui est quand même assez exubérant. Là, comme pour s'installer au Québec, ça prend quand même un bon investissement initial, alors que nous, on est plus dans un système de passation qui est plus collé sur le modèle européen, même si ces gens-là ne sont pas nos parents, mais on est un peu plus dans ce genre de système-là. Donc, on est loin d'être riches, mais on réussit quand même à bien se débrouiller. On a eu un millésime absolument terrible en 2021, comme je pense la plupart des vignerons.
Beaucoup
en tout
Europe,
cas, en France-Allemagne, ouais. Définitivement, c'était un millésime qui était très, très difficile. Mais c'était quand même le premier millésime qu'on mettait nos vins sur le marché depuis l'Allemagne. Donc, les vins étaient tous vendus avant d'être produits, ou à peu près. Donc, on a quand même réussi à avoir une bonne demande. Donc, à ce niveau-là, ça nous a donné un peu de trésorerie. Justement, on n'avait pas d'investissement initial. Il y avait de l'équipement déjà sur la ferme. Donc, tu sais, on n'a pas eu investir énormément d'argent, donc on a quand même réussi à garder ça.
Ouais, ça, c'est assez confortable.
Bien,
quand même,
bien, bien à flot, ce qui est quand même vraiment cool. Et aussi, chez Van Gogh, on a une exploitation maraîchère à côté. Donc, moi, j'ai fait des conserves aussi l'année passée qu'on vend. Donc, chez nous, la ferme, c'est très... c'est pas de la polyculture, je pense, à proprement dit, mais on fait du vin, du cidre, du vermouth et des conserves. Et cette année, on va vendre des légumes. Donc, on a quand même une diversité dans notre offre économique. Donc, on réussit à se garder à flot de cette façon-là.
Et ça, c'était c'est plus une nécessité économique d'être diversifié, ou c'était une volonté dès le départ d'avoir un projet un petit peu large, de faire différents alcools, de faire des légumes?
Non, c'est dès le départ. En fait, c'est vraiment une volonté. C'était non négociable pour nous, en fait. Quand on cherchait un domaine, on cherchait des vignes. C'est facile en Allemagne de trouver des parcelles de vignes dans n'importe quelle région. C'est très facile. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver un endroit pour s'installer et surtout un petit morceau de terre pour faire des légumes qui n'est pas à 3 km de ta maison et qui n'est pas, tu sais, comme que ça reste quand même vivable. Donc pour nous, c'était l'envie de faire des légumes, c'était là depuis le début, et de le faire. On a quand même, pour l'instant, on a 800 mètres carrés de jardin. Mais on aimerait ça éventuellement doubler cette superficie-là. Puis aussi, le vermouth, bien, on a commencé à en produire directement sur notre premier millésime. Et le cidre, bien, en 2021, peut-être que je pourrais répondre de façon différente, mais en 2021, c'était une excellente année à pommes pour nous, alors qu'on a vu notre récolte de raisins fondre littéralement sous nos yeux avec les problèmes de maladies fongiques. Donc, c'est vrai qu'on a, on a eu une belle année de pommes. Donc, on a juste ramassé toutes les pommes. Puis, on a fait un genre de 3000 bouteilles de cidre qui nous ont quand même bien aidé à maintenir notre offre.
Justement, en 2021, est-ce que tes cépages hybrides, ça t'a permis de maintenir, maintenir Weingut à flot, voire d'avoir des revenus corrects?
Mais comme c'est juste un tiers de notre encépagement, je veux dire, c'est sûr qu'on a morflé, là, je veux dire, c'est sûr que c'était vraiment difficile, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir dans le champ, par exemple, le Muscaris, qui est un des hybrides qu'on a de planter, un hybride allemand, qui fait d'énormes feuilles. Ça a été pulvérisé une fois après la floraison. Puis, pendant l'été, tu sais, alors que plusieurs de nos cépages étaient couverts de mildiou, là, on va être honnête, là, je veux dire, ça se passait vraiment pas si bien. Le Muscaris, quand il y avait un mini spot de mildiou sur la feuille, on passait le lendemain, puis c'était disparu, quoi. La vigne se régénère elle-même contre les maladies fongiques. C'est quand même assez impressionnant à voir. Mais par exemple, le Regent, qui est un cépage rouge qu'on a de planté, qui est aussi un hybride, mais qui a beaucoup, beaucoup de pinot noir dans son parentage, lui, c'était un désastre en 2021. Donc, c'est pas tous les hybrides qui se valent.
Est-ce que tu peux nous parler de ta gamme, un petit peu des styles de vin que vous produisez chez Weingut?
Oui, tout à fait. Donc, chez Weingut, on a beaucoup de cépages. Donc, notre partner a planté plusieurs choses. Donc, on a beaucoup de plusieurs. On n'a pas beaucoup de plusieurs choses. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'isoler deux cépages qui sont chers à notre cœur, qui sont deux cépages quand même assez connus dans la région de la Franconie, le Sylvaner et le Schwarzriesling, qui est aussi connu sous le nom de Pinot Meunier.
Donc, on trouve beaucoup en Champagne, notamment.
Donc, on trouve beaucoup en Champagne. Et on en trouve donc des petites pochettes un peu partout en Allemagne, particulièrement en Franconie et dans la région du Württemberg, donc plus au sud. Et donc, on fait un blanc de Sylvaner, un rouge de Schwarzriesling. Ça, c'est quelque chose qui va revenir à tous les ans. Et ensuite, on a fait un assemblage blanc avec nos autres cépages blancs et un rosé pour 2021. C'est ce qu'on a fait. On avait acheté un petit peu de raisin à des amis vu qu'on avait eu un millésime terrible pour le rosé.
Toi, Vincent, tu peux nous parler un peu de tes vins? Moi, j'ai eu la chance de goûter une bouteille il y a 15 jours, 15 jours à peu près. Et c'était une bouteille assez originale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, s'il te plaît?
D'abord, les couleurs. Moi, j'aime beaucoup parler des couleurs. Les cépages rouges qui ont été plantés chez nous par les anciens propriétaires, ce sont des hybrides extrêmement teinturiers. Donc, le Lucy Coolman, notamment, a la chair colorée. Même en presse directe, ça a la couleur d'un rouge. Le Marquette est un peu moins exubérant en couleur, mais c'est quand même assez présent. Et 2021 est le plus beau millésime de l'histoire du Québec en termes de chaleur, de pas trop d'eau également. Et donc, ça a donné une forte concentration sur les couleurs, justement. Donc, il y a le vin que tu as eu la chance de goûter, qu'on a appelé le soir des poubelles, qui n'a rien à voir avec la qualité du vin. et c'est un rosé, mais moi, je voulais qu'on écrive rosé sur la bouteille. En fait, il n'y a même pas eu de débat entre nous trois, entre Félix, Laurence et moi. On trouvait ça super important parce que il n'y avait pas d'extraction tannique. C'était vraiment juste une presse directe. On voulait que les gens le voient sur la contre-étiquette et fassent un service comme si c'est du rosé. Mais bien évidemment, en plus que ça vient d'une bouteille bordelaise foncée, quand c'est versé dans le verre, les gens sont surpris. Mais j'aime beaucoup, quand je suis là, en plus, je peux faire des blagues, je peux dédouaner. Je comprends que cela dit, quand il y a une bouteille qui se retrouve dans les mains de quelqu'un de peu averti, ça peut être surprenant. Peut-être qu'avec le temps, quand on aura un peu plus de raisins blancs, on viendra amener un petit peu plus de blanc. J'aime beaucoup les blancs dans les rosés de toute façon, mais c'est vrai qu'au niveau de la couleur aussi, ça pourrait être intéressant. Nous, en fait, à chaque année, on s'est dit qu'on ferait des vins différents. Donc, les hybrides, notamment chez nous, je pense que ça va prendre toute une vie à ce qu'on apprenne à les vinifier. Il va falloir les goûter beaucoup, il va falloir essayer différentes choses. Puis on va vouloir s'amuser avec ça. C'est pour ça que les noms de nos cuvées vont changer à chaque année, les étiquettes vont changer chaque année. Finalement, on nous reconnaîtra que par l'espèce de format de l'étiquette frontale qui rappelle un peu les codes d'un timbre. Donc, au niveau du format, format, au lieu d'avoir le nom du pays, il est écrit très précieux sang. On a dans le coin, on a un indicateur du millésime. Puis finalement, l'œuvre à l'intérieur de ces timbres-là va changer selon les millésimes. Et donc, pour le consommateur, ce qu'on aime, c'est que tu ne crées pas d'attente par rapport au millésime précédent. Donc, le soir des poubelles ne reviendra pas. Il y aura très fort probablement encore un rosé en 2022, mais avec un assemblage différent, avec une vinification un peu différente, puis l'effet du millésime qui est très marqué. Donc ça, c'est vraiment notre signature chez nous. Puis c'est juste en replantant un deuxième hectare au printemps dernier, on a planté à peu près 6 cépages différents dans l'idée justement de pouvoir mettre l'emphase sur ces assemblages-là, puis vraiment, c'est l'aspect créatif de la chose un peu au niveau des vinifications. Ça fait que les vendanges, c'est comme un moment de page blanche où est-ce qu'on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut. Et c'est aussi une des forces du Québec, selon moi, c'est qu'on n'a pas de restriction au niveau de ce qu'on peut planter. On n'a pas de restriction au niveau du style de vinification. Donc, on a vraiment libre choix de faire ce qui nous semble le plus adapté à notre terroir, puis ce qui nous tente de travailler, finalement.
Un petit peu plus tôt, on a juste un tout petit peu abordé les défis du changement climatique en Europe, notamment. Émilie, parfois, lié à cette question-là, là, j'entends des gens qui disent « Germany is the new France ». Est-ce que ça...
Wow.
Est-ce que ça te parle ?
Non.
Alors, ma question tombe un peu à l'eau, du coup. Mais...
c'est excellent de dire ça. Par contre, j'avais jamais entendu ça. Et peux-tu me mettre en contexte pourquoi les gens disent ça?
L'idée, c'est de dire, je pense que jusqu'à récemment, on va dire, en Allemagne, tu avais quand même des vins... Enfin, des raisins qui avaient parfois...
Frais.
Ouais, climat frais. Parfois, des raisins qui avaient un petit peu du mal à mûrir. Mm-hmm. Et avec le changement climatique, ils en profitent beaucoup. Ça va devenir plus simple. Ça va devenir plus simple de faire des vins avec un degré d'alcool au-dessus de 12,5, avec de la concentration, ce genre de choses, quoi.
Je comprends ce que vous voulez
dire. Je te pose la question à toi, parce que tu travailles... Enfin, tu connais bien les terroirs, au moins la Franconie, et tu dois bien connaître les vins allemands.
Mais ça fait quand même longtemps aussi que je suis très amoureuse des vins allemands. Ouais. Et... ben oui et non, en fait. Je pense que la fenêtre où l'Allemagne va profiter des changements climatiques est très courte et est déjà en train de se refermer. Donc, il y a eu un moment où, oui, bien sûr, c'était plus facile de faire mûrir certains cépages, d'avoir quelques millésimes un peu plus chauds, que c'était moins tiré par les cheveux en Allemagne, mais je pense que ça, présentement, c'est déjà terminé, en fait. Il fait terriblement chaud en Allemagne, surtout dans plusieurs régions. Puis aussi, il ne faut pas oublier que l'Allemagne a fait son histoire et sa réputation sur des blancs très acides avec peu d'alcool, avec qui sont dans cet équilibre-là, en fait, parfois avec du sucre, parfois sans, de moins en moins sans, mais définitivement plus des blancs assez tendus, avec des cépages qui ont beaucoup d'acidité. Donc, ce qu'on regarde, quand on regarde vers l'avenir en Allemagne, c'est que il va falloir divorcer complètement de l'idée, de l'identité des vins allemands, ce qui est quand même assez triste et aussi assez, je pense que ça fait peur quand même. C'est tu sais, l'encépagement en Allemagne n'est pas fait pour qu'il fasse extrêmement chaud. Tu sais, on n'est pas sur un encépagement du Roussillon ou du Rhône Sud, par exemple, où il y a des cépages adaptés, des tailles adaptées, des vignes qui ont vécu dans la chaleur pendant très longtemps. Donc là, l'Allemagne doit se poser les questions de quand on replante, qu'est-ce qu'on replante? Parce que je pense qu'il y a plusieurs cépages qui vont y passer. Puis, tu sais, nous, dans notre région, le plus gros défi, c'est le manque d'eau. On n'a pas d'eau. L'année passée, il n'y a plus au début mai, puis il y a replu au vendange, quoi. On a eu 20 mm de pluie en 4 mois.
Ça fait pas beaucoup.
Je veux dire, c'est c'est vraiment stressant. C'est difficile pour la vigne, c'est difficile pour la santé mentale des vignerons. Je pense que c'était quand même assez répandu dans toute l'Europe, qu'il a fait très chaud puis que c'était très sec l'année passée. Mais c'est ça, tu sais, les cépages allemands sont pas nécessairement résilients à cette partie-là qui provient des changements climatiques. Il y a aussi, bien sûr, les gels de printemps, puis il y a les vagues de chaleur. Et ouais, je pense qu'il y en a qui vont certainement y passer. Puis je pense que, justement, je pense qu'il y a beaucoup de viticulteurs et viticultrices allemands qui commencent à se poser la question des hybrides, surtout sur la plus jeune génération. Il y a quand même pas mal de gens de mon âge qui ont planté, de mon âge, j'ai 35 ans, qui commencent à s'interroger sur les hybrides, puis qui commencent à planter certaines parcelles d'hybrides qui sont quand même vraiment mieux adaptées à cette sécheresse qui est présente à presque toutes les millésimes, sauf 2021 depuis les dernières 10 années. Ouais.
On se dirige doucement vers la fin de l'interview. Je voudrais qu'on passe à la petite séquence émotion. C'est quoi votre plus belle émotion avec un vin québécois?
Pour moi, ça vient de la ferme Le Racu, qui est à Kamouraska. Donc, si jamais des auditeurs ouvrent Google Maps pour aller voir sur une carte où ça se situe, on est vraiment très au nord-est dans le Québec, dans le sens qu'on suit le fleuve Saint-Laurent, on dépasse Québec assez largement, 1h30 de route, et on est à un endroit où est-ce que le fleuve Saint-Laurent s'élargit, on est face à Charlevoix. Donc, on ne pourrait pas croire que ça puisse être mûr-là, mais la proximité avec le fleuve Saint-Laurent crée un genre de microclimat. En fait, littéralement, Samuel Lavoie, il traverse la route 132, puis il a les pieds dans le fleuve Saint-Laurent. Donc ça crée un genre de microclimat où il a planté. On sait jamais qui de nous deux a la bonne version, si c'est 25 ou 40 cépages différents, mais il en a beaucoup. Ouais, c'est un collectionneur, finalement, de cépages. Et la première fois que j'ai goûté son rouge, si je me souviens bien, c'était millésime 2018. On a reçu ça au restaurant, c'était la pandémie. J'en ouvre une en après-midi, on goûte. Et tout le monde dans l'équipe, on n'en revient pas de la qualité du fruit, du plaisir dans ce vin-là. C'est un assemblage de Pinot Madeleine, donc personne n'a au Québec sauf lui, donc qui est en allemand, on l'appelle le Frühburgunder, qui est en fait un Pinot noir qui arrive à maturité plus tôt. Il y a également du Saint-Laurent, donc qui nous vient d'Autriche, et il y a du Marquette, qui est un hybride québécois que j'ai également au vignoble. Et cet assemblage-là, le fruit était parfait. Et c'était un bonheur de mettre son nez dans le verre, c'était un bonheur de boire ce vin-là, et moi, une bouteille qui se boit littéralement 4 secondes 15, c'est bon signe, et j'avais ça sur ce vin-là.
Et toi, Émilie?
Alors, moi, j'ai toujours du mal à faire un top 1 dans la vie, donc top 3 des émotions. En troisième position, une comparaison de la cuvée Le Couchant des Pervenches, qui sont les plus vieilles vignes de Chardonnay au Québec, et aussi un des meilleurs vins produits au Québec à 100% de Chardonnay. Parmi les meilleurs viticulteurs, peut-être même les meilleurs viticulteurs, mais définitivement qui ont enseigné à beaucoup de monde, qui ont pris le chemin, qui ont eu un chemin tortueux jusqu'au vin sans soufre, alors que maintenant ils font du vin comme 100% nature. Comparaison du millésime 2017 et 2018 sur la cuvée Le Couchant à l'automne dernier, qui était extraordinaire. Position numéro 2. C'est vrai que goûter les premiers vins de mon ami Vincent, ici présent, qui sont produits avec ses partenaires Félix et Laurence, et que les vins étaient bons. Surprise! C'était vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Et particulièrement, j'ai un gros coup de cœur pour la cuvée Arbre à genoux en rouge qu'on a bu la semaine dernière chez moi, qui était excellent. Et en position numéro 1, un gros moment d'émotion, un magnum de Matière à discussion 2017. Moi, il faut savoir que j'ai un petit programme d'importation valise. Donc, j'essaie de ramener le plus de vins québécois possible chez moi à la maison et d'en garder, donc de garder certains millésimes pour qu'on puisse les boire avec un un tout petit peu d'âge. Donc, un magnum de 2017 que quelqu'un m'avait apporté en cadeau du domaine du Nival qu'on a bu l'année passée pour célébrer la fin des vendanges. Et c'était magistral.
C'est quoi votre dernière grande émotion? Tout pays confondu.
C'est parce que là, on vient de passer un mois ensemble à ouvrir tous les meilleurs canons qu'on avait gardés dans ma cave depuis les 4 dernières années.
Alors là, tu penses auquel? Le premier auquel tu penses, c'est quoi?
Oh my God, c'est impossible pour vrai. C'est impossible. Attends. Oh my God, mais on a ouvert littéralement toutes les meilleures bouteilles de ma cave dans les dernières 3 semaines. Donc, c'est presque impossible pour vrai. La cuvée de Maxime Magnon.
Rosetta?
Non, c'était pas Rosetta, c'était Métis de Maxime Magnon, qui était un vin parfait, sa cuvée de rosé. Le vin que je voudrais remplacer l'eau dans mon robinet par ce vin-là, pour y avoir toujours accès. C'était vraiment excellent. Et aussi, j'ai acheté, quand j'étais en vacances en Italie cet hiver, j'ai acheté à l'aveugle, en me disant, si c'est bon, ça va être grandiose, une bouteille de Texier 2011, sa cuvée.
Ouais, c'est Saint-Julien
en Alban. Saint-Julien en Alban 2011.
Une cuvée parcellaire.
Ouais, que là, malheureusement, j'oublie le nom.
Vieille Sérine.
La Vieille Sérine 2011 d'Éric Texier, que j'ai acheté dans une boutique en Italie, un peu de nulle part, qu'il y avait ça, puis j'étais comme, si c'est bon, ça va être extraordinaire. Et c'était effectivement extraordinaire.
Pour moi, les grandes émotions viennent aussi à toujours un peu avec des moments. Je suis quand même hautement influencé par les moments. Puis après notre périple dans le Jura, le premier apéro qu'on s'est fait chez Émilien Franconi, on est monté au haut de la montagne où est-ce que au domaine ils ont quelques parcelles. Christophe est en train de finir une journée de taille dans la grosse pente. Émilie et moi, on est partis à pied avec une bouteille dans notre sac de François Roussel-Martin qu'on avait visité la semaine précédente. Donc, c'est une bouteille de Souroche, son chardonnay. Je crois que c'était 2018, mais mes photos ne montrent pas le millésime. Puis on a bu, le soleil se couchait. Il faisait assez doux. On était en haut de la montagne, à côté de la croix. Puis cette bouteille-là s'est bue en littéralement 4 secondes et quart, avec un sac de chips. C'était vraiment délicieux. Et moi, quand je suis en vacances, j'aime bien fumer la cigarette. J'avais oublié mon tabac à rouler. Et on arrive à la table de pique-nique et il y a un paquet de Marlboro Gold qui nous attend caché sous la table à pique-nique. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est venu nous déposer ça en prévision de notre apéro. Ça ne se peut pas. Et moi, des moments parfaits comme ça, ben, ça fait que le vin, finalement, devient encore plus magistral.
Allez, dernière question traditionnelle. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui?
100%.
Extrêmement.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est donc par une franche rigolade que nous décidâmes d'aller boire un coup et de terminer cet épisode, chers auditeurs et auditrices. Merci Émilie et Vincent de nous avoir sensibilisés à de nouveaux vins et de nouveaux goûts. Longue vie à Très Précieux Sang et longue vie à Weingut. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @bongrainivresse, ou en nous mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast. Vous pouvez également nous faire un don sur Tipeee pour pérenniser ce podcast à l'adresse tipeee.com/lebongraindelivresse. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !